France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et aujourd'hui, nous allons apprendre que les pattes ne sont pas faites pour marcher. Dans la forêt primitive, le plus grand, peut-être le plus beau des fauves est le léopard. Certes, la fourrure du léopard traduit un jeu d'ombre et de lumière tellement fantastique qu'on imagine se dessiner le croc qui arrive, le regard vigilant et tout le corps tendu vers la proie. Mais comment le léopard a-t-il obtenu les taches de son pelage? Il s'est adapté, direz-vous. Eh oui, la notion d'adaptation est au cœur de la théorie de l'évolution. Depuis Lamarck, et l'adaptation des organismes est reconnue comme le résultat de la sélection naturelle depuis Darwin. Pourtant, l'adaptation est une effrayante question. Une adaptation est en réalité la solution d'un problème, exactement comme une machine ou un outil fabriqué par l'homme. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Queneau dans l'adaptation en 1925. Ce qui veut dire que reconnaître les adaptations de la nature en tant que fait biologique n'est jamais très difficile. C'est une question d'observation ou d'expérience bien conduite. Mais ensuite, l'esprit demande impérieusement à comprendre le mécanisme par lequel les êtres vivants ont été pourvus de ces caractères totalement ambitieux qui sont des adaptations. La trompe de l'éléphant constitue-t-elle une adaptation? Et une adaptation à quoi? Toutes les espèces que tu vois respirer l'air vivifiant, c'est la ruse ou la force ou enfin la vitesse qui, dès l'origine, les a défendues et conservées, nous dit Lucrèce dans De Rerum Natura, livre 5. On le voit, depuis les premiers philosophes, plusieurs explications ont été proposées, mais c'est à partir du constat que l'adaptation correspondait à une réaction utile d'un être face aux circonstances et à son milieu que Jean-Baptiste Lamarck a insisté sur l'histoire évolutive. Assurément, aujourd'hui, tout le monde semble d'accord pour trouver une explication causale aux adaptations. Et Darwin a proposé une loi qu'il voulait générale, une loi scientifique. La sélection naturelle est à l'origine des adaptations. Tout se passe comme si la nature voulait la perpétuation de la vie. Alors en plus, adaptation, ça signifie meilleure aptitude. On se retrouve donc bien dans une hypothèse de progrès évolutif. Cette même conception du vivant qui autorise un rangement du plus simple vers le plus perfectionné. Avec une amibe à la base et peut-être l'humain dans son règne définitif au plus haut. Nous allons donc nous intéresser à deux questions majeures. D'abord, l'adaptation est-elle une amélioration des procédures organiques sous l'effet de la sélection naturelle? C'est la théorie. Deuxièmement, comment s'effectue cette adaptation à l'environnement? Car l'une des anomalies de l'évolution, c'est le fonctionnalisme. les êtres vivants possèdent des organes apparemment fonctionnels. Or, si les organes ont une fonction, on se demande comment ils ont pu évoluer pour obtenir cette fonction. Par exemple, les yeux sont faits pour voir. Ou alors, les pattes sont faites pour marcher. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs, je suis Thierry Laudet. Nous allons parler aujourd'hui de la science et des adaptations, c'est-à-dire des exaptations. Car nous allons le voir, les pattes ne sont pas du tout faites pour marcher. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
C'était Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. De retour sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste où nous nous amusons à éplucher la biologie, dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle, science en liberté.
Eh bien nous sommes donc sur le problème de l'adaptation et notre amie Nancy Sinatra se trompe, enfin elle se trompe pas pour les chaussures, mais quoi qu'on en dise, les pattes ne sont pas faites pour marcher. Quel mystère! Et ce n'est pas seulement parce que vous le savez peut-être, auditrice impassible et auditeur flegmatique, parce que j'ai quelques problèmes de locomotion, puisque je me déplace qu'en fauteuil roulant, que je peux ici affirmer que vos jambes, vos pattes ne sont pas faites pour la marche ni pour la course. Car l'adaptation est une chose beaucoup plus facétieuse. Alors bonjour Siona, en forme pour cette nouvelle émission?
Bonjour Thierry, oui tout à fait. Que de questions autour de cette chose toute simple, n'est-ce pas?
Eh oui.
Et oui, finalement, j'ai des oreilles, je peux entendre. Les poumons, ça semble fait pour respirer.
Ah, oui.
Il y a donc une finalité. J'ai des jambes, je peux... Enfin, oui, désolé,
pas moi.
Je peux marcher. Alors, pourquoi dis-tu que les pattes ne sont pas faites pour marcher ?
Uniquement pour me venger, mais
oui,
non.
Oui.
C'est facile de voir qu'en fait, les animaux sont toujours associés à des conditions particulières. Ils habitent dans le désert, ils résident dans l'eau ou alors sur la glace. Ils ont des organes qui semblent assurer des fonctions. On respire, on mange. Bref, les animaux semblent adaptés à un lieu. Alors l'adaptation, c'est vrai. Ils ont même aussi un rôle, on appelle ça une niche écologique. Alors, c'est un petit peu plus compliqué, la théorie de la niche écologique a beaucoup évolué, mais en gros, on dit qu'ils sont herbivores, carnivores, et donc pour tout ça, ils disposent d'une série d'adaptations. Des crocs pour les carnivores, la rumination chez les bovins. Bref, il y a une adéquation entre le rôle de l'animal et son milieu. Mais ce n'est pas un bon moyen pour comprendre l'évolution, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Car évidemment, si on regarde ces adaptations, ça semble répondre d'une manière assez parfaite aux contraintes de l'habitat ou de l'environnement. En plus, tous les êtres vivants apparaissent avoir des fonctions physiologiques, sensorielles. Le poil, par exemple, est un isolant thermique.
Ah. Donc, oui, je réfléchissais au fait qu'il était un isolant thermique, c'était une image. Mais donc, les adaptations, en fait, existent. Ça, d'accord, j'ai compris. Ce sont des faits. Et chaque être vivant montre qu'il est adapté à un environnement particulier. C'est cela donc qui fait son écologie.
C'est ça. C'est-à-dire que son écologie, elle est faite a priori de cette adaptation. Le problème, c'est que toutes ces fonctions paraissent plaider pour une sorte de perfection, plutôt que pour un ajustement au hasard des circonstances. Alors c'est souvent un argument des créationnistes, par exemple l'œil, il semble parfait. Donc comme il semble parfait, évidemment, c'est difficile de croire que ça a pu se construire au hasard des circonstances. Mais on va voir que non seulement l'œil est parfait, mais qu'il n'est même pas fait pour voir. Alors on pourrait croire qu'il constitue un outil fait pour voir. Mais alors, si l'outil était fait pour voir, pourquoi les animaux ont-ils des yeux très différents ? Une pieuvre n'a pas les mêmes yeux qu'un chien. Le chien n'a pas les mêmes yeux qu'un criquet. Eh bien, c'est bien parce que l'organe n'est pas une perfection, mais une série d'événements, d'ajustements à l'environnement. Et ces ajustements ont une histoire. Ils se sont passés pendant l'histoire évolutive. On part d'un élément simple, un élément sensible à la lumière, et ensuite s'est organisé progressivement un organe sensoriel capable de voir, d'interpréter des formes, d'interpréter des couleurs.
Donc l'organe n'est pas parfait, mais il est adapté au monde de chacun, si je comprends bien. Chaque animal va disposer de ses propres adaptations. D'ailleurs, Lamarck va justement se baser sur l'adaptation pour affirmer qu'il y a une histoire qu'on appelle l'évolution. Il suffit de reconnaître ces adaptations pour comprendre alors qu'il y a une évolution.
Oui, parce que l'évolution, ça paraît être l'histoire de ces adaptations. En fait, c'est comme ça que Lamarck avait tout défini. Les espèces dérivent les unes des autres parce qu'elles vont s'adapter à l'environnement. C'est ça la position de Lamarck. Et ce qui fait la différence entre une espèce et une autre espèce, c'est qu'elles vont montrer des adaptations différentes. Elles vont avoir des habitudes différentes et tout cela s'inscrit dans leur écologie. Par exemple, la girafe. Elle est différente de l'antilope. L'une va manger des feuilles, l'autre va manger l'herbe. Elle dérive donc d'une forme qu'on peut supposer parente. On a fait une espèce de rupture, une divergence. Des adaptations ont une histoire, mais comment ? Alors Lamarck va supposer que c'est l'habitude. D'où l'idée qui court beaucoup en biologie que la fonction crée l'organe. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Pour Lamarck, c'est le carnivore a besoin des crocs, et donc comme il a ce besoin, ça va générer l'apparition et le développement de l'organe des crocs, sans doute par l'habitude. Comme il en a besoin, ça va apparaître. Pour ça, nous dit Lamarck, on a besoin d'un temps très long. Il faut que ça dure, et de petites pressions répétées qui iraient toujours dans le même sens. Cela suppose donc deux choses que reprendra Darwin par la suite. Ça suppose que l'évolution est lente et qu'elle est améliorante. Oui, sauf que ce n'est pas du tout comme ça que les choses arrivent.
Crémoué, crémoro, quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime. Aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Il rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps, ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
Et c'était Beau Dommage, la complainte du phoque en Alaska. Voilà donc notre histoire de phoque. Le phoque, si je veux bien revenir à notre sujet de base, le phoque est adapté à la banquise.
Eh oui.
Mais donc maintenant, on va s'éloigner du phoque et de ses glaces pour venir à un exemple, celui de la girafe et de la savane.
Ah oui, on cherche toujours à comprendre pourquoi les pattes ne sont pas faites pour marcher. Mais pour cela, on va faire donc quelques détours. Le phoque, adapté à la banquise, il est blanc, tout ça, tout semble très bien. Alors, revenons sur la girafe. En fait, on attribue à la marque l'idée que, obligés de brouter des acacias, donc dans les arbres, les ancêtres des girafes auraient allongé leur cou, ce qui aurait permis de laisser ce caractère à leur descendance. Au contraire, la théorie darwinienne annoncerait que ce caractère est apparu au hasard et qu'il s'est transmis parce que seuls ont survécu les girafes armées de ce long cou. Il y a donc là deux éléments totalement différents pour envisager l'évolution, d'une part l'effort que proposait notre ami Lamarck et d'autre part la sélection que propose Darwin.
Alors là, on va vous donner deux exemples de textes. Le texte original de Lamarck énonce « Il est résulté de cette habitude, soutenue depuis longtemps dans tous les individus de sa race, que ses jambes de devant sont devenues plus longues que celles de derrière et que son col s'est tellement allongé que la girafe, sans se dresser sur les jambes de derrière, élève sa tête et atteint à 6 mètres de hauteur, soit près de 20 pieds. » C'était donc Lamarck. Maintenant, un extrait de Darwin. Darwin dit « La faculté de brouter au-dessus de la hauteur moyenne et la destruction continue de ceux qui ne pouvaient pas atteindre la même hauteur aurait suffi à produire ce quadrupède remarquable, mais l'usage prolongé de toutes les parties ainsi que l'hérédité ont dû aussi contribuer d'une manière importante à leur coordination. » Finalement, quand on lit les nuances, ils ne sont pas si éloignés que cela.
Oui, tout à fait. On voit bien que chez Darwin, on retrouve cette idée malgré tout de l'usage prolongé, de l'habitude. On verra que il y a beaucoup d'autres cas où on peut le retrouver. Et puis Lamarck, finalement, on retrouve bien cette hypothèse qu'il y a quand même une espèce d'opposition entre les individus de sa race, comme il dit. Mais la différence, c'est que Darwin introduit la notion de variation héréditaire. Et ici, l'environnement n'est plus un cadre actif, alors que chez Lamarck, c'est l'environnement qui compte. Chez Darwin, l'environnement, ce n'est qu'un filtre passif. Il filtre passivement, il trie les erreurs des organes pour retenir le bon organe. Donc l'environnement est vu comme un filtre qui trie, alors que chez Lamarck, l'environnement est vu comme quelque chose qui va... Le cadre actif dans lequel l'adaptation va se passer. Alors, c'est assez compliqué de bien voir la différence immédiatement, mais en général, elle est largement enseignée dans les manuels scolaires, notamment au collège. Il faut bien comprendre que cette notion d'adaptation est au cœur de la théorie de l'évolution par la sélection naturelle de Charles Darwin. Car l'évolution, ça reste l'histoire des adaptations. Sauf que, si ce n'est pas le besoin qui crée l'organe, il faut bien que l'organe provienne d'ailleurs. Le problème de l'adaptation, c'est qu'on va avoir un organe qui va être adapté. Alors, c'est là que Darwin dit « cet organe, il a dû se produire par le hasard ». Et c'est la reproduction différentielle qui va réussir à l'imposer. Les individus se reproduisent différemment. Ceux qui possèdent le bon organe vont mieux se reproduire que les autres. Et évidemment, c'est comme ça que cet organe va apparaître. Très naïvement, c'est simple. C'est la fonction qui est sélectionnée et la sélection est une amélioration de la procédure organique. Cette conception est souvent critiquée parce qu'elle apparaît un peu tautologique, car l'adaptation est à la fois ce qui va conditionner la sélection des individus dans leur milieu, mais l'adaptation, c'est aussi le résultat de cette sélection.
Effectivement, c'est un petit peu compliqué, là. Est-ce que tu peux développer ?
C'est-à-dire que c'est assez ambigu, puisque finalement, pour Darwin, seul un individu adapté sera retenu par la sélection naturelle, et donc un individu qui survit est forcément bien adapté, puisque finalement, il est le résultat de la sélection naturelle. Il est même la preuve que la sélection naturelle l'a retenu. Donc, c'est le concept du plus apte pour survivre. La sélection naturelle a le rôle essentiel qui sert de filtre aux erreurs de la nature.
Donc, c'est pour cela qu'il dit que le plus apte survit à la concurrence.
Alors, oui et non. Les espèces sont en concurrence reproductive. C'est celui qui a le plus de descendants. Ce sera celui-là qui va rester. En fait, on a souvent tendance à penser que chez Darwin, la concurrence est une concurrence directe des individus qui se tapent les uns dans les autres. Ce n'est pas totalement faux. Il y a des moments donnés où chez Darwin, c'est clair, l'hypothèse centrale, c'est de supposer une concurrence active. Mais petit à petit, ce qu'il faut retenir du darwinisme, surtout à travers le néo-darwinisme, c'est ce fameux concept de descendance avec modification. Un individu va laisser des caractères différents dans sa descendance, et ce sont ces caractères apparus par hasard qui vont faire l'adaptation. Un individu va laisser plus de gènes qu'un autre parce qu'il va se reproduire. Alors aujourd'hui, dans la théorie, on parle de fitness, c'est-à-dire que la théorie néo-darwiniste actuelle reconnaît l'idée de reproduction différentielle. Celui qui se reproduit le plus laisse ses caractères aux autres générations et en laisse plus, alors que celui qui se reproduit le moins, ses caractères vont disparaître. Donc, les bonnes adaptations vont se diffuser au fil du temps. Les caractères mauvais, au contraire, vont être éliminés par ce processus qu'on appelle la sélection naturelle.
Donc il ne va y avoir que des bons. Donc petit à petit, les organes se transforment Et comme les meilleurs restent, les animaux et les plantes se retrouvent en quelque sorte adaptés à l'environnement, dans leur niche écologique à eux. En fait, les adaptations favorisent la survie de chacun et grâce à des nouvelles adaptations, l'évolution finit par transformer les êtres en de nouvelles espèces nouvelles.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on voit apparaître des girafes par hasard qui ont un cou un peu plus long. Et puis, au fur et à mesure que ce cou plus long va leur permettre de brouter les bons acacias, eh bien, ces girafes-là vont pouvoir survivre alors que les autres ne vont pas survivre. Et donc, c'est ça l'adaptation. On va avoir la divergence à travers l'adaptation. Alors évidemment, tout ça, ça apparaît dans le meilleur des mondes possible. Hein. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Les espèces évoluent, elles s'adaptent à l'environnement. Sauf que il y a quand même des crises qui vont changer considérablement le problème. Et ces crises vont exiger de nouvelles adaptations. Des catastrophes vont donc participer à l'évolution et elles vont constituer un changement physique. Donc ça, c'est le milieu. Et ce changement physique va influencer le changement organique. On voit que les modifications organiques proviennent des erreurs de traduction du code génétique, ce qu'on appelle d'habitude les mutations.
Et la mutation produit au hasard les caractères qui se modifient pour être en fait triés par la sélection.
Voilà, c'est ça. On a affaire à des hasards de traduction, des erreurs de traduction du code génétique. Ces erreurs de traduction du code génétique provoquent un nouveau caractère. Et ce nouveau caractère, s'il est avantageux, c'est-à-dire s'il constitue une adaptation, il va rester ou pas rester. Et c'est là que le bât blesse un peu. Car un individu, ce n'est pas simplement un porteur de caractère adapté à l'environnement. Il faut aussi que ces différents caractères soient cohérents ensemble. Certains caractères peuvent apparaître, ils pourraient être éventuellement avantageux, mais s'ils ne coïncident pas, s'ils ne collaborent pas avec les autres caractères qui sont apparus dans son histoire, on va avoir affaire à un espèce de monstre qui sera incapable de bien réussir, évidemment, à survivre. Et donc l'adaptation, même bonne, finirait par être mauvaise. Alors on retrouve ici un problème qui a été posé dès le départ par Cuvier, celui de la corrélation des caractères. Cuvier notait par exemple que l'herbivore avait non seulement des dents adaptées pour brouter et pour râper les végétaux, mais il possédait aussi des sabots. Alors que le carnivore, qui lui possédait des crocs, disposait aussi de griffes. C'est-à-dire que le corps n'est pas constitué comme un assemblage de caractères qui associent des choses qui sont utiles, il a une cohérence apparente. Et c'est là, évidemment, que le problème de la fonction va véritablement se poser.
Et en fait, d'où vient cette cohérence? Comment la sélection peut-elle agir à la fois sur les crocs et sur les griffes? Si cela provient du hasard, ça se construit comment?
Et voilà, c'est ça le problème majeur qui complique terriblement la notion d'adaptation. Alors, il faut dire que cette notion d'adaptation, elle est parfois un peu évitée dans la théorie évolutive. En règle générale, on la confond de plus en plus avec la théorie de la fitness. C'est-à-dire que de moins en moins, on va parler de ces adaptations, de ces caractéristiques des espèces, pour plutôt dire, oh ben, celui-là, il se reproduit mieux, donc il est adapté. On voit que cette question est importante parce que pourtant, il y a bien des traits biologiques. Or, qu'est-ce que l'évolution, qu'est-ce que l'histoire évolutive est censée nous expliquer? Toute la théorie évolutive est censée nous expliquer comment, à travers des contraintes de l'environnement, des caractères comme la trompe de l'éléphant, la queue de la girafe, le cou de la girafe, etc., toutes les caractéristiques des espèces, ont pu résister aux facteurs qui pouvaient limiter leur reproduction. Et donc, on voit bien que l'adaptation reste quand même étroitement posée dans sa procédure organique. Alors, il faut aussi souligner l'importance des contraintes développementales dans la formation des traits biologiques, car les caractères ne peuvent pas varier complètement. Ils ne peuvent varier que dans des limites étroites, selon le développement, en fonction de la durée de notre développement, en fonction des possibilités de notre développement. Hein. Un escargot ne peut pas avoir une coquille qui pèserait trop lourd. En outre, l'impression de cohérence de l'organisme ou de direction de l'évolution provient d'une même erreur. C'est cette erreur qu'on appelle l'erreur fonctionnaliste. L'erreur fonctionnaliste, c'est une fausse hypothèse. C'est l'hypothèse qui attribue une fonction à l'organe. L'organe est conçu comme un caractère qui va servir à quelque chose. Et c'est pour ça que j'insiste en disant que les pattes ne sont pas faites pour marcher. Car nous allons voir que les choses ne sont pas du tout aussi simples. Si l'environnement constitue un filtre passif des changements, il y a quand même un véritable problème, c'est qu'il faut que les changements, eux, se produisent.
Au café rêvait un lion, devant sa consommation, il voit venir une abeille, vêtue d'un tailleur querelle, de noir avec le soleil, une petite merveille. Elle grésille, elle bourdonne avec l'accent de Narbonne, et gentiment elle butine un diabolo grenadine. Ainsi rêvassait le lion devant sa consommation. Il voit venir un moucheron vêtu d'un complet marron, avec des ailes sur le tronc et une mèche sur le front, qui grésille, qui s'éseille avec l'accent de Marseille, qui lui casse les oreilles et lui arrive à l'orteil. Petit, je suis le lion. Allez, va jouer au ballon. Tu peux t'éponger le front, avoir les jambes en coton. Ici c'est moi le patron, c'est moi qui donne le ton. Tu t'essayes, tu grésilles et tu tournes autour des filles. Un conseil, tiens-toi tranquille, tu vas t'asseoir sur le grill. T'es prêt comme une fourmi et tu veux te battre avec moi. Allez, sois raisonnable, je suis trop fort. Si tu t'en prends à la pègre, tu finiras dans le vinaigre. Allez, tiens-toi tranquille, sinon t'es mort. Le lion n'a rien vu venir, le moucheron sans prévenir lui a mis un coup de Satan à la pointe du menton. Il n'en revient pas le lion, et ce n'est qu'un échantillon. Un coup dans les testicules, ça c'est de la part de Jules. J'aime pas tellement qu'on me bouscule quand je me rince les mandibules. Cette histoire est une fiction. Moi, j'ai rencontré le lion. Je lui ai mis, c'est ridicule, un coup dans les testicules. Il m'a dévoré tout cru au beau milieu de la rue. Je grésille, je zézeille, et dans le dos j'ai des ailes. J'ai l'éternité au ciel grâce à mon exploit de la veille. Ta-da, 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 ta-da.
C'était Thomas Fersen, Les Malheurs du Lion.
Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans Science en Liberté, une émission faite pour se demander ce qu'on fout sur Terre, bordel.
Alors nous voilà toujours inscrits dans cette problématique du besoin et de l'organe. En effet, il y a quelque chose qui cloche dans tout cela. Reprenons. Nous avons bien compris que si la patte s'était améliorée pour marcher, il faudrait que l'animal ait déjà été terrestre. C'est-à-dire qu'il faut que la fonction d'un organe nous donne la raison pour laquelle cet organe a été sélectionné. Du coup, l'œil, qui aurait dû être fait pour voir et qui sert à voir, n'a pas été fait pour voir. L'oreille n'a pas été faite pour entendre. Donc c'est assez compliqué de comprendre cette espèce de décalage temporel entre la fonction et l'organe. Or, pourtant, les organes sont bien apparus. Alors il va falloir comprendre comment ces organes ont pu apparaître, tout en étant effectivement différents de leur fonction. En fait, pour cela, ce n'est pas très très compliqué, car il faut bien concevoir l'évolution comme une espèce de bricolage, un long bricolage qui s'est constitué au fur et à mesure que les éléments s'adoptaient les uns par rapport aux autres et dans un environnement particulier. Prenons l'exemple des arcs branchiaux. Alors, vous ne le savez peut-être pas tous, chers auditeurs, chères auditrices, mais les poissons possèdent des arcs branchiaux. Au départ, ces arcs branchiaux, ce sont des petites baguettes de cartilage, des baguettes qui sont doubles. Il y en a du côté gauche et du côté droit de ces animaux, des poissons. Et ces baguettes de cartilage vont permettre de maintenir, de poser sur eux les branchies. C'est-à-dire, ça va permettre aux animaux de respirer. Alors, ces baguettes sont doubles, à gauche et à droite, et elles sont composées de deux petites baguettes associées l'une à l'autre. Jusqu'ici, rien de particulier, il y en a sept, et ces animaux qui présentent ces arcs branchiaux n'ont pas de bouche. Or, ce qui va se passer, c'est que l'un de ces arcs branchiaux va se transformer un jour pour former la bouche. Chez les requins, chez les animaux qui font partie du groupe des requins, on va retrouver une modification du premier arc branchial qui va former une pince. Et l'arc branchial gauche va s'associer à l'arc branchial droit pour former la mâchoire. Cette mâchoire, à son tour, va modifier le second arc branchial, le deuxième, qui, lui, va servir à tenir cette bouche sur le crâne. Ça ne s'arrête pas encore là, c'est-à-dire que là, il reste encore des arcs branchiaux derrière. Mais avec les amphibiens, les arcs branchiaux vont finir par disparaître. L'amphibien, les grenouilles et les crapauds, ils n'ont besoin d'avoir des branchies qu'au stade aquatique. Dès qu'ils sont au stade terrestre, les branchies vont disparaître. Et on va voir en fait ici que ces branchies vont aller en quelque sorte se dissoudre dans l'organe. Ce qui est plus surprenant, c'est de se rendre compte que ces arcs branchiaux vont aussi donner ce qu'on appelle être l'os carré. Alors l'os carré, c'est un os qui est tout sauf carré. Ça montre un peu le génie des zoologues et des biologistes, puisqu'ils ont appelé carré un os qui est plus souvent quand même triangulaire. Chez les oiseaux, par exemple, c'est un os qui est triangulaire. Il tient la mâchoire inférieure à la mâchoire supérieure. Et cet os carré va avoir une forme très allongée chez les serpents. C'est ce qui permet au boa, par exemple, d'avaler un éléphant, on nous raconte Le Petit Prince de Saint-Exupéry. C'est ces déformations là, fabuleuses de la bouche de notre serpent. C'est pour avaler des grosses proies, c'est grâce à cet os carré. Et puis, chez les mammifères, quelque chose encore va se modifier. On va avoir affaire à des modifications de ce qu'on appelle les fosses temporales, c'est-à-dire des creux qui vont se définir petit à petit dans le crâne. Alors, ces fosses temporales existent déjà chez les reptiles, hein, les crocodiles en ont deux, etc. Mais chez les mammifères, ça va donner l'occasion à la mâchoire inférieure de se loger sur un os qui est très solide à la base du crâne et qu'on appelle le squamosal. Ce qui fait du coup que ces os-là ne vont plus servir à grand-chose et la mâchoire va être tellement bien posée sur un pivot tellement solide eh bien que du coup, cet os carré va servir à rien. Alors comme il ne sert à rien, cet os carré, eh bien, il va disparaître lui aussi. Et donc, on pourrait être surpris de ces adaptations. On passe bien d'une branchie à des os qui tiennent des branchies, à des os qui vont servir à tout à fait autre chose. Car tenez-vous bien, ces petits os n'ont pas totalement disparu. Qu'est-ce qui se passe avec la sortie des os chez les grenouilles? Eh bien, les grenouilles vont inventer le son. Les amphibiens vont être capables de chanter, et donc capables d'entendre. Pourquoi? Parce que l'un des os qui servait auparavant à maintenir vaguement le crâne et les branchies chez les poissons, va devenir un petit os qu'on appelle la columelle et qui va se loger tout près de l'oreille interne, près du tympan, et qui va permettre de vibrer et d'entendre les sons. L'os s'est donc réduit et il est passé à autre chose. La columelle, ce n'est pas très, très, très important encore. Ce qui va être encore plus surprenant, c'est ce qui se passe chez les mammifères. Parce que l'os carré va lui aussi se transformer. Et il va aussi rejoindre la columelle dans cet espace particulier qu'est la bulle tympanique. Et on va voir un petit bout d'articulaire, un petit bout de columelle et puis ce petit os carré qui vont former ensemble le trio des trois osselets de l'oreille moyenne, c'est-à-dire l'étrier, l'enclume et le marteau, et qui permettent une transmission tellement sensible des sons que vous avez pu écouter ma propre histoire. Donc c'est vous dire, vous voyez, des petites variations de son que je peux faire, vous êtes capable de l'entendre grâce à ces trois ossements. Alors, c'est quoi la leçon de ça? Eh bien, d'abord, la leçon de ça, c'est que les os de l'oreille moyenne ne sont pas faits pour entendre. Au départ, c'était fait pour tenir des branchies. On voit bien ici qu'il y a quelque chose, un processus, un élément incroyable, une histoire incroyable qui s'est passée avec plein de petits ajustements. Et là, les gènes, ils ne sont pas pour grand-chose. On avait des gènes au début qui étaient là pour les branchies et qui sont là maintenant pour entendre. Vous le voyez, nous sommes ici en présence d'une histoire tout à fait fabuleuse. On est vraiment en présence d'adaptation.
Tout ceci n'est pas si sûr que ça, ça, c'est pas si sûr. Ce qui est sûr, c'est que si l'on dit tout ça, faut qu'on s'en assure. S'assurer que l'on est sûr de soi, ça semble pas si dur. Même si souvent ça ne suffit pas, moi, ça me rassure. Tout ceci n'est pas si sûr que ça, ça, c'est pas si sûr. Ressasser toutes ses pensées sans foi serait sans mesure. Mesurer ses sentiments au poids me paraît peu sûr. C'est sûr que ça, ça, c'est pas si sûr. Ce qui est sûr, c'est que si l'on dit tout ça, faut qu'on s'en assure. S'assurer que l'on est sûr de soi, ça semble pas si dur. Même si souvent ça ne suffit pas, moi, ça me rassure. C'est sûr que ça, ça c'est pas si sûr. Ressasser toutes ces pensées cent fois serait sans mesure. Mesurer ses sentiments au poids me paraît peu sûr.
C'était Compagnie 26 Spinel. Tout ceci n'est vraiment pas si sûr. J'aimerais recomprendre un petit peu les choses.
Oui,
finalement, c'est une.
Spinel est en train de douter de tout ce qu'on raconte.
Voilà, mais s'il y en a aussi, peut-être les auditeurs aussi. Mais
oui.
Donc finalement, c'est un drôle de bricolage et les adaptations ne durent pas très longtemps. Tu peux nous en dire un peu
plus ?
Oui,
alors en effet, c'est tout à fait un bricolage. Il faut bien voir que l'exemple des arcs branchiaux nous montre bien. C'est ce qu'on appelle la théorie de Cooper-Hope. Et cette théorie nous montre bien que rien ne se perd dans la biologie évolutive. L'évolution, c'est l'histoire de toutes ces adaptations qui vont sans arrêt se modifier en fonction de tout un ensemble de pressions du milieu. Là, on voit que ce sont des pressions internes du corps qui vont jouer avec des pressions fonctionnelles et qui vont jouer évidemment avec l'histoire des espèces. Un poisson a besoin de branchies, ce qui n'est plus le cas de l'oiseau, etc. Et donc on voit bien que tous ces éléments restent malgré tout dans un ensemble cohérent. Et il faut bien penser que si les mammifères ont acquis ces trois petits osselets de l'oreille moyenne, eh bien ça leur a permis de survivre quand même à quelque chose de colossal, c'est-à-dire à la présence des grands dinosaures. Ça leur a permis d'utiliser une niche écologique particulière, la nuit. Ça leur a permis tout un ensemble de choses. Les oiseaux qui ont utilisé la columelle et qui ont modifié également tous ces organes ont pu aussi, grâce à cela, inventer une langue un peu plus puissante. Hein, on retrouve des petits os aussi, là encore, des petits cartilages à certains stades et des ossements qui viennent aussi de ces arcs branchiaux. Enfin, tout ça, c'est un petit peu compliqué, c'est l'appareil oïdien. Eh bien, ça leur permet aussi de moduler des sons et donc de chanter et de nous faire non seulement le printemps, mais bien sûr de s'adapter, de pouvoir continuer à se reproduire, etc. Donc, première leçon, rien ne se perd. Ce qui veut dire que les gènes ne sont pas l'alpha et l'oméga du processus évolutif. Bien au contraire, on voit bien qu'à partir d'un processus génétique qui est à la base là, eh bien des petites choses, des petites variations vont pouvoir construire des éléments tout à fait différents selon que se situe dans un corps d'oiseau, dans un corps de poisson ou dans un corps de mammifère. La cohérence apparaît. Donc rien ne se perd. Mais en plus, l'adaptation n'est pas ce qu'on croit. On voit des animaux qui vont être équipés d'organes fonctionnels, mais toujours ce sont des bricolages provisoires. C'est-à-dire que ces bricolages vont avoir une histoire, ils vont s'arrêter à un moment donné, au fur et à mesure que les espèces varient ou changent. Et donc il n'y a pas du tout un processus d'amélioration continue. Il ne s'agit pas d'organes qui vont sans arrêt s'améliorer. L'évolution n'est pas un progrès. Donc si ce n'est pas un progrès, à quoi ça apparaît ? Eh bien, ça apparaît, l'évolution, comme un détournement. C'est un détour. Alors le détournement, il est aussi visible dans les arcs branchiaux, puisque nous sommes passés d'arcs osseux ou cartilagineux qui servaient au départ à tenir des branchies à des éléments qui vont servir à entendre. On voit bien que l'évolution a détourné cela. Un peu comme le nez de l'éléphant est détourné de sa fonction purement olfactive pour avoir une fonction préhensile. Mais est-ce que c'est tout le temps la fonction qui est détournée ? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce processus évolutif particulier ?
Est-ce que tu peux développer un peu plus encore ? Parce que c'est compliqué, là.
Alors,
le détournement.
Voilà. On voit bien que quand un être vit, prospère et se perpétue dans un milieu donné, sa structure et ses fonctions sont celles qui lui permettent de vivre. Autrement dit, il peut respirer, chanter, se plaire, etc. Il existe un ajustement entre les organes et le milieu extérieur. La question qui se pose et qu'on appelle adaptation, c'est comment est-ce que cet ajustement se fait ? Cette approximation montre qu'il existe un minimum d'adaptation entre l'être organisé et son milieu.
C'est-à-dire ?
Alors, on va considérer la faune d'un biotope limité, par exemple une mare ou une plage marine. On voit bien ici que les animaux qui vont composer cette plage marine vont appartenir à des types d'organisations très différentes. Si on préfère, on peut regarder par exemple sur la plage, on voit qu'il y a des crabes, il y a des vers, il y a des coquillages. À chaque fois, des solutions différentes vont permettre l'ajustement de l'être vivant à un même milieu. Donc on voit que l'épanouissement de la vie va se faire d'une manière totalement relative. L'adaptation n'est pas une notion qui a une valeur absolue, elle présente un caractère relatif. Ça veut dire qu'elle est provisoire et que chaque être vivant, en fonction de son groupe, en fonction de son histoire évolutive, en fonction de ce qu'on appelle sa phylogénie, va développer une adaptation particulière et cette adaptation va être provisoire et relative.
Provisoire, relative, mais c'est tout un monde. Alors va un petit peu plus loin encore.
C'est-à-dire que si on voyait ça comme un ensemble de fonctions, oui. Si on voyait ça comme une machine, on se dirait, évidemment, on invente une machine pour faire fabriquer quelque chose. Mm-hmm. On invente une machine pour arriver à un résultat. Dans une machine industrielle, il n'y a pas de rouage qui soit indifférent. Chaque écrou va avoir son rôle, un rôle éventuel. La courbure des pièces, leur poids, leur épaisseur, tout ça a été l'objet de recherches qui permettent l'optimalisation de la procédure. Rien n'est inutile dans la machine. Eh bien, en évolution, c'est exactement le contraire. Contrairement à la machine, l'organisme a un passé. L'organisme a vécu, il a une histoire. Le corps va donc
L'espèce.
L'espèce, c'est encore une autre définition. Le vivant, hein, l'être vivant. Mm-hmm. Chaque être vivant particulier, individuel, il a un corps et ce corps va posséder des organes qui sont plus ou moins rudimentaires. Dans ces organes, il y en a même qui sont superflus. Et c'est ces organes plus ou moins superflus qui vont utiliser en quelque sorte des vieilles pièces pour un usage nouveau. C'est un peu comme si, au lieu d'améliorer une machine, on la fabriquait à partir d'éléments anciens. Un peu comme si une locomotive n'était finalement composée que des mêmes pièces que d'une diligence, et que la diligence n'était composée que des mêmes pièces que d'une brouette, etc., etc. En fait, il existe des ornements, il existe même des sculptures dans l'organe, dans les organes et dans l'organisme, alors que ça existe assez peu. On va dire que dans les outils d'autrefois, vous savez, les anciens artisans, des fois, décoraient leurs outils. Mais enfin, c'est devenu de plus en plus rare. On va dire que les machines-outils sont de moins en moins décoratives. Il y a de plus en plus, en dépit d'un design travaillé, une notion d'optimalisation qui se porte. Eh bien, dans la biologie, c'est un peu l'inverse. Il y a des phénomènes de convergence évolutive qui vont nous montrer que les différentes espèces vont aboutir parfois à la même solution évolutive quand elles sont soumises aux mêmes problèmes adaptatifs, alors que dans d'autres cas, eh bien, on n'a pas du tout cette convergence évolutive.
C'est étonnant. C'est vraiment toute une histoire de bricolage.
Par exemple, la convergence évolutive, c'est le fait qu'on ait, par exemple, des groupes qui semblent être des porcs épics, qui ressemblent aux porcs épics en Amérique et qui sont des porcs épics en Afrique et en Europe. Ils ont convergé évolutivement parce qu'ils s'adaptent de la même manière en montrant ce processus de défense. Un autre processus de convergence bien connu, c'est le cas du thylacine. Le thylacine, c'est un marsupial, donc il fait partie du groupe des kangourous. Et finalement, il avait la niche écologique du loup ou du tigre. Alors, le thylacine était une forme de gros chien, une forme de gros chien rayé, et qui s'attaquait aux kangourous. Donc exactement comme on a le loup qui s'attaque aux herbivores. On voit ici que les kangourous...
Il a disparu
dans les années 1950 à peu près. Ça, c'est une autre histoire des espèces, c'est leur disparition. Mais ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que les kangourous ont choisi une niche écologique qui est la même que celle des herbivores, antilopes, etc. Mais on le voit, leur solution a été totalement différente. Ils sautent sur deux pieds, ils ont pas du tout la même solution. Alors qu'au contraire, le thylacine, en tant que prédateur de ces herbivores, a dû choisir la même chose. Il est très proche. Il a une convergence évolutive tout à fait étonnante avec les loups et avec les carnivores. Voilà. Et donc, on voit bien ici que cette convergence adaptative va poser la question du problème adaptatif. S'il n'y avait pas un problème d'adaptation, aucune des espèces ne serait convergente. On n'aurait pas les tatous d'un côté et les pangolins de l'autre qui ont convergé alors que ce sont deux groupes totalement différents. Ils présentent pourtant des adaptations qui sont presque similaires. Alors bon, cet ajustement d'une fonction supposée semble être la cible évolutive d'une sélection. Et les éthologues ont compris depuis longtemps qu'une structure pouvait être utilisée d'une manière différente sans que l'usage soit forcément considéré comme une finalité en soi. En fait, on va voir que détecter l'adaptation par la convergence masque en fait une espèce de finalisme qui n'est pas bien assumé dans la biologie. Et tout ça, ça met au jour une problématique particulière, celle des corrélations des traits. En fait, la fonction d'un trait est l'effet pour lequel il a été sélectionné, donc on en déduit que la fonction a une cause. On va voir évidemment que tout ça est beaucoup plus complexe.
Otmar Liebert, Isla del Sol.
De retour sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, où nous nous amusons à éplucher la biologie dans une émission faite pour tous les aventuriers de la réflexion et autres dégourdis de la cervelle. Science en liberté.
Alors nous allons nous attaquer à un personnage tout à fait étonnant dans cette partie sur les citations, le paléontologue américain Stephen Jay Gould, qui est né en 1941 et qui est mort récemment en 2002. Alors ce paléontologue doit sa renommée principalement aux États-Unis, à sa participation active luttant contre les idées créationnistes, et puis à ses livres qui sont vraiment très très faciles à lire, très bien faits. Il est principalement connu et reconnu par ses pairs comme le co-auteur de plusieurs idées théoriques qui concernent le fonctionnement de l'évolution, à l'échelle de la macroévolution des temps paléontologiques, le modèle dit des équilibres ponctués qu'il a construit avec son collègue Niels Edrych en 72. Alors ce modèle des équilibres ponctués est maintenant incorporé dans la théorie, mais on va dire que Gould a quand même été un grand critique de la théorie darwiniste, néo-darwiniste, jusqu'à la fin de sa vie, où là, bizarrement, il est redevenu beaucoup plus néo-darwinien, on ne sait pas trop pourquoi. Toujours est-il que c'est plutôt la confusion du mot adaptation que nous allons essayer de comprendre et dont nous parle également Gould. En effet, l'usage du terme adaptation entraîne une interprétation qui est finaliste. Et c'est ça que Stephen Jay Gould et Richard Levantin vont reprocher au néo-darwinisme. Alors reprenons. Pour les néo-darwinistes, comme par exemple George Williams, l'adaptation est conçue comme un trait qui sert à une fonction précise. L'adaptation est donc à un but, elle est finaliste. L'animal est adapté au vol, il est adapté au saut, il est adapté à l'obscurité. Les pattes sont faites pour marcher. Et ces idées sont largement passées dans la conception commune. Alors, l'adaptation paraît comme le meilleur des mondes, et évidemment, Pangloss est à l'œuvre, nous scande Gould, puisque dans cette tautologie immanquable, sont adaptés ceux qui survivent, et survivent ceux qui montrent qu'ils ont des adaptations. Or, nous dit Gould, l'évolution ne fonctionne pas comme cela. Les fonctions changent, et les animaux détournent les traits dont ils ont hérité à un moment particulier de leur histoire. C'est le principe de détournement que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure. Les fonctions distinctives d'un attribut proviennent bien davantage d'une aventure hasardeuse, nous dit Gould, plutôt que d'un but manifeste auquel les meilleurs accéderaient. Il n'y a donc pas de bon gène. Alors ça, c'est moi qui le rajoute, c'est pas tout à fait ce que disait Gould. Mais en tout cas, non seulement pour Gould, la théorie néo-darwiniste devrait ranger le terme adaptation au rebut, mais le processus évolutif lui-même devrait être clarifié. Pour Gould, les gènes n'interviennent pas de manière directe, mais uniquement à travers les organismes. Ce sont ces organismes qui sont les seuls et réels acteurs de la lutte pour la vie. En cela, il est totalement différent de Richard Dawkins, dont nous parlerons aussi, et qui, pour qui, lui, ce sont les gènes qui sont évidemment essentiels. Aussi, pour Gould, les organismes ne sont pas strictement le produit des effets additifs des gènes, et ils ne sont pas optimisés, ces produits-là. Au contraire, les individus possèdent des propriétés qui sont particulières. Alors Gould songe en fait à une sélection naturelle qui agirait à plusieurs niveaux, depuis le gène jusqu'à l'organisme. Car pour lui, il est impossible de connaître les causes ou les avantages d'un changement génétique simplement en faisant le décompte des fréquences de gènes. On voit qu'en disant ça, Gould s'oppose presque complètement au néo-darwinisme. Donc c'est assez compliqué de concevoir comment ensuite il arrive à comprendre que cette thématique du néo-darwinisme se retrouve complètement dans son dernier ouvrage. Ça, c'est un mystère qui va rester longtemps pour moi dans la tête, puisqu'il se contredit à propos de ça. Mais en tout cas, il a raison, les gènes n'interviennent jamais de manière directe, ce sont bien les individus qui sont acteurs de leur évolution. Side.
c'était Riverside, Op Vel Agnes.
Eh oui, la belle Agnès qui nous chantait ça, c'était très joli quand même. Alors nous en sommes maintenant à la recherche du mois, à la publication du mois et à ses anecdotes. Alors, la publication du mois, eh bien, c'est principalement une publication qui est maintenant un petit peu ancienne, mais c'est quand même très intéressant. C'est la publication du livre de Gould en 2006, « La structure de la théorie d'évolution dont il faut que nous reparlions ». En effet, dans ce livre, Gould essaye de proposer une nouvelle synthèse globale. Il essaye de proposer des éléments qui peuvent modifier la synthèse néo-darwiniste. Donc là, il insiste beaucoup sur l'importance de tas d'événements non-darwiniens, comme par exemple les catastrophes. Il insiste beaucoup sur ses notions à lui d'équilibre ponctué, etc. Mais alors, paradoxalement, il tente, dans tout son ouvrage, de critiquer Lamarck, de réévaluer Cuvier et de dire que du bien de Darwin, tout en insistant considérablement sur l'hypothèse que finalement, le darwinisme n'est pas du tout dépassé. Alors que, paradoxalement, toute sa vie, il a dit l'inverse. Donc, je suis un peu étonné de ce dernier livre. Moi, j'aimerais bien que des gens qui l'ont lu... alors, c'est un livre énorme à lire, hein, je vous dis de suite. Moi, je n'ai même pas lu en entier. J'ai des passages que j'ai que parcourus. Mais j'aimerais bien quand même qu'on en rediscute et qu'on l'approfondisse dans la mesure où c'est quelque chose d'étonnant. Et puis, ben, nous voilà quand même maintenant à propos de Gould, toujours dans quelque chose d'exceptionnel, ce qu'il avait écrit il y a beaucoup plus de temps. C'est l'indiscrétion du jour. L'indiscrétion du jour, c'est le pouce du panda. Alors, non seulement le pouce du panda est un livre de Gould qui raconte une chose intéressante sur l'adaptation, mais surtout, c'est là où on peut voir apparaître la manière dont Gould nous raconte avec délectation, avec gourmandise, ce qu'est une adaptation. Alors, le panda, c'est pas simplement un livre. Le grand panda, c'est un ours chinois que vous connaissez bien, noir et blanc, qui vit donc dans le sud de la Chine et qui se nourrit principalement de bambou. C'est le seul ours qui est purement végétarien et qui s'est spécialisé au point de dépendre totalement de cette source de nourriture végétale, le bambou. Pour cela, cette espèce est donc spécialisée. Il mange quasiment 14 heures par jour et il dort 10 heures par jour. Enfin bref, il passe beaucoup de temps à ça. Or, le problème de notre ami le panda, c'est qu'il descend des ours. C'est une espèce qui a dérivé depuis ses ancêtres ours asiatiques. Les ours, comme les autres animaux, sont des plantigrades, comme beaucoup de carnivores. C'est-à-dire qu'ils vont courir assez vite parce que, précisément, ils ne possèdent pas de pouce opposable. Ils ont des pieds un peu comme les pieds de votre chien, vous voyez. Sauf que là, au lieu de s'appuyer sur les doigts, ils vont s'appuyer sur la plante des pieds. Et c'est comme ça que les ours fonctionnent. Or, le problème, c'est que l'évolution ne peut pas agir à rebours. Et notre panda a un très grand problème. Son grand problème vient de sa source de nourriture végétale spécialisée, le bambou. Car le bambou, c'est quelque chose qu'il faut attraper dans une main, il faut réussir à le casser, puis il faut réussir à le grignoter. Et pour cela, Gould nous dit « mais j'ai regardé un panda dans un zoo ». Alors, vous pouvez vous aussi faire la même expérience, et vous verrez que le panda, il tient le bambou dans sa main. Comment peut-il le faire, puisque normalement les pattes des ours ne possèdent pas de pouces ? Or, qu'est-ce que peut constater notre ami Gould ? Qu'est-ce que constate notre ami Gould ? Eh bien, il voit que le panda a les cinq doigts normaux associés l'un à l'autre de manière irréparable, contrairement à nous. Et en plus de ces cinq doigts, notre ami le panda possède un pouce surnuméraire. Il a un sixième doigt. Et ce sixième doigt s'est fabriqué à partir de petits os particuliers qu'on appelle des sésamoïdes, qui sont des petits osselets qui fonctionnent sous nos mains un peu partout, hein, qui sont là généralement pour renforcer des articulations. Et bien là, on voit que le panda, parce qu'il a besoin de tenir des bambous, va avoir développé un sixième doigt, une excroissance osseuse particulière qui lui permet de plier sa main autour du bambou. Cette histoire s'arrêterait là si ce n'était pas aussi le cas de la taupe. Alors la taupe a aussi un sixième doigt. Elle, ce n'est pas pour tenir le bambou, mais parce qu'elle a besoin de fonctionner comme une excavatrice. Et donc elle va compléter sa palette de fouissage par ce sixième doigt qu'on appelle en fait un sésamoïde falciforme, parce qu'il est en forme de faux, qui va agrandir cette grosse palette de fouissage qu'a la taupe et qui lui permet de beaucoup mieux creuser grâce à ce sixième doigt. Alors, vous voyez, l'évolution a ici utilisé une petite particularité, le sésamoïde, pour fabriquer un os. Est-ce que c'est encore pour fonctionner comme on le croit ? Est-ce que ce petit bricolage a une fonction précise ? Apparemment, oui. Mais d'où vient-il ? Eh bien, c'est ça que Gould va inventer quand il va nous définir le concept d'exaptation dont nous allons pouvoir parler petit à petit maintenant. En fait, on va voir que l'adaptation est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on peut le penser. L'adaptation est quelque chose qui fait l'évolution et en même temps, elle est fondée vraiment sur trois petites choses de rien du tout. «
trois petites notes de musique vont plier boutique au creux du souvenir. C'en est fini la page, elles tournent la page et vont s'endormir. Mais un jour sans crier gare, elles reviennent en mémoire. Toi, tu voulais oublier un petit air galvaudé dans l'air rouge de l'été. Toi, tu n'oublieras jamais une rue, un été, une fille qui fredonnait. La 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 la, je vous aime, chantait la rengaine. La la, mon amour, des paroles sans rien sublime, pourvu que la rime amène toujours une romance de vacances qui lance une autre relance. Vrai, elle était si jolie, si fraîche, épanouie, et tu ne l'as pas cueillie. Reprendra d'unisson. La 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 la, la tour rêve rime avec sa chèvre. Le tien ne rime à rien. Fini avant qu'il commence le temps d'une danse, le temps d'un refrain.
C'était Juliette Gréco, trois petites notes de musique. Nous sommes, vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans publicité, et dans une émission faite pour les cortiqués du bulbe, Science sans liberté.
Alors nous sommes toujours à la recherche de cette adaptation, ou plutôt de cette exaptation. Car la patte n'est décidément pas faite pour marcher. Alors, vous savez sans doute, le néo-darwinisme distingue des causes dites proximales et des causes ultimes. La cause proximale du sexe, par exemple, ça serait de se faire plaisir, et la cause ultime, ça serait de se reproduire. Et c'est bien contre cela que je me suis élevé, notamment dans mon livre « La biodiversité amoureuse », parce qu'en fait, il semble bien que tout ce qui compte en évolution n'est pas cette finalité, mais bien la cause immédiate. Et l'histoire nous montre qu'il y a de multiples dérives, de multiples détournements dans l'évolution. Alors pour cela, Stephen Jay Gould et Elisabeth Vrah vont introduire un nouveau mot, le mot « exaptation ». Alors, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais évidemment, ce n'est pas très clair. Pourquoi adopter un nouveau mot qui serait différent de celui de l'adaptation? D'abord parce que le mot adaptation signifie donc quelque chose d'immédiatement utile à quelque chose. Il y a une espèce d'élément final, de finalité. Or, le problème, c'est que l'exaptation signifie autre chose. En fait, l'exaptation signifie simplement que des caractères nouveaux peuvent apparaître à partir de structures déjà existantes, mais qui possédaient d'autres fonctions ancestrales. En quelque sorte, l'adaptation vient après que l'organe soit venu, ou du moins la patte est apparue, et c'est après seulement qu'on a eu envie de marcher. À partir de ces organes initiaux, se construit un nouvel usage. Alors Gould a choisi, lui, l'exemple de l'émergence de la plume. La plume, elle est liée à la thermorégulation des dinosaures, qui vont commencer à devenir homéothermes, à sang chaud, si vous préférez. Et donc le plumage, qui est au départ utile aux dinosaures pour devenir homéothermes, va leur permettre ensuite de voler. Donc, la plume n'est pas faite pour voler. L'oiseau a juste profité de la plume puisqu'il en possédait et ça lui a permis de détourner la plume pour après ensuite voler. Parce qu'elle a finalement été bonne aussi à cela. En cela, après, elle s'est retransformée, les pressions organiques ont conduit à fabriquer des plumes spécialisées. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples de détournement. On peut retrouver ça, par exemple, avec les protéines de choc thermique, les cristallines alpha, hein, les enzymes du métabolisme glycolytique, par exemple, avec la cristalline epsilon du canard. Enfin,
oh là là, les gros mots,
il y a plein de choses, mais tout ça, c'est pour vous dire que la patte est apparue chez un poisson. Évidemment, elle est apparue avant qu'un animal aille sur Terre. Autrement, il ne pouvait pas aller sur Terre puisqu'il n'aurait pas pu marcher avec. Et donc, il a fallu qu'elle apparaisse chez un poisson qui n'avait pas encore envie de marcher. Elle est apparue chez un poisson et elle n'est donc pas faite pour marcher. La patte a été conservée parce qu'elle servait à marcher. Elle a été conservée parce qu'elle a servi à autre chose que ce pourquoi elle est apparue au départ. Mais il faut donc bien penser que la patte au départ devait être efficace chez un poisson pour autre chose. Autrement, cette patte ne serait pas restée. Donc on voit que le mot sélection et le mot adaptation sous-entendent des choses qui sont différentes du réel. Et c'est pourquoi il faut retraduire les mots, c'est ce que Gould a fait en utilisant le mot exaptation. L'exaptation nous dit que la patte a été efficace pour une chose, et puis après, elle a servi à autre chose. Ou si l'on préfère, la fonction dérive de l'usage de l'organe. L'oreille n'a donc plus maintenant le même usage que la branchie. Ce n'est donc évidemment pas la fonction qui crée l'organe, et ce n'est pas non plus l'organe qui crée la fonction, qui semble pourtant en parfaite adéquation. Mais c'est la fonction qui dérive de l'organe, qui dérive d'un autre organe, et qui dérive encore d'un autre organe, etc. C'est ça que j'ai nommé le principe de détournement dans mon dernier bouquin. Ainsi, la trompe de l'éléphant préhensile a détourné le nez. Et tout ça, ça dépend d'un principe d'efficacité provisoire. Alors notre poisson, pourquoi est-ce qu'il a fait apparaître des pattes? D'où ça peut bien provenir? Eh bien, tout simplement, ça provient du fait que ces premières nageoires particulières que possédait ce groupe de poissons-là l'ont permis au départ de se véhiculer, de pouvoir se faufiler dans des zones de marécage où il y a plein de végétaux ou plein de choses. On retrouve ça, on retrouve ces adaptations chez certains poissons qui vont en quelque sorte marcher avec leurs nageoires sur le fond de l'eau. Et comme ils étaient capables de faire cela, et bien petit à petit, ils sont sortis de l'eau.
On comprend mieux l'idée de détournement.
Voilà, le détournement d'un organe. Et on voit que les pattes ne sont pas du tout faites pour marcher.
Nous sommes des nains de 1m80, nous sommes des nains. Entourés d'autres nains de New York à Pékin, nous sommes des nains. On a quitté les marécages y a pas très longtemps. 1m50 au Moyen-Âge, on n'était pas des géants. On sort à peine de l'âge du fer néandertal du computer. On est encore débutants, sifflés en travaillant. Nous sommes des nains de 1m80, nous sommes des nains. Pas plus gros que des grains, mais plus grands que moyens. Nous somme d'une. On coloriait des fresques, maintenant c'est du papier peint. On perd nos dents de sagesse et on est qu'à mi-chemin. On n'a plus de fourrure et on met des chaussures. Progrès tous azimuts, gargantua, oui, les putes, ça discute. Nous sommes des nains de 1m80. Nous sommes des nains. Si on se serre les coudes comme les frères Hippolyte, en gueulant Johnny Bigoud, peut-être qu'on ira un peu plus loin. Nous ne sommes que des nains. Nous ne sommes que des nains.
Qu'est-ce que disait Darwin déjà?
En regardant une fourmi traverser le Canada.
Nous sommes au grand lama, ce que le bonsaï est au séquoia.
Et quand on a vaincu à la place du coccyx,
il faut demander à Desmond Maurice.
Comme un diplodocus, j'ai encore le temps, je suis encore tout minus. Je ne suis qu'un nain de 1m80. Je ne suis qu'un nain de 1m80.
Pas de panique, pas de panique,
la fin n'est pas pour demain. Nous ne sommes que des nains.
Pas de panique, pas de panique,
la fin n'est pas pour demain. Nous ne sommes que des nains.
Eh bien, Tom Novembre a raison, nous sommes bien des nains de 1m80 et handicapés parfois. En conclusion, voilà, nous apprenons donc que tout ça change beaucoup de choses. L'évolution n'est pas ce que l'on croit, l'adaptation n'est pas non plus ce qu'on croit. On voit des animaux équipés d'organes fonctionnels, mais ce sont toujours des bricolages. Et il n'y a pas du tout d'amélioration continue. Et ce n'est pas la fonction qui est privilégiée par l'évolution biologique, contrairement à ce que m'écrivait un auditeur il n'y a pas très très longtemps, qui n'était pas du tout content après moi. La fonction n'existe pas, c'est bien l'organe qui change et qui, s'il se trouve assez efficace, peut alors changer de fonction, obtenir un nouvel usage. Comme on l'a vu pour les arcs branchiaux qui étaient auparavant le support de branchies et sont devenus des os de soutien de la mâchoire, puis des osselets de l'oreille moyenne, et toujours à partir des mêmes gènes. Sans compter que ça vous a permis, auditrices, auditeurs, de nous écouter ce soir. L'évolution n'est pas un progrès, c'est une histoire et c'est l'histoire de multiples détours et de multiples détournements. Le concept d'exaptation constitue donc une conception très heuristique, très valable pour la compréhension de l'histoire évolutive des espèces. Et pour une fois, j'applaudis tout à fait Gould. Voici donc que nous sommes d'accord maintenant, les pattes ne sont pas faites pour marcher. Et vous comprenez que je n'ai pas dit ça pour me venger de mon handicap moteur, mais bien parce que l'évolution est biologique et elle est formidable. Alors, tout ça nous conduit évidemment à finir ce soir cette émission sur l'adaptation et l'exaptation. Et vous, auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez encore chercher à nous contacter en téléphonant au studio ou bien par l'email de l'émission, l'email que je rappelle ici, sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Nous aurons le plaisir de nous retrouver, comme tous les quatrièmes lundis de chaque mois, à 18h, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître et ni publicité. Tout ça pour continuer à décortiquer la biologie et les idéologies qui parfois se véhiculent avec elle. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est de Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur l'hymne forestier de nos amis Deep Forest. Au revoir à tous. Alors, Gould parle de la plume, mais le poil a aussi ses admirateurs, car il faut reconnaître que le douillet pelage des mammifères ou même le duvet des oiseaux va constituer un habitat particulièrement accueillant pour nombre de parasites. Le poil, la plume, qui s'avèrent efficaces pour emprisonner l'air dans le chevrettement des fibres, vont isoler l'épiderme derrière cette barrière thermique. Et donc, il est très probable qu'on a ici affaire à une adaptation qui est de la même nature que la plume et qui va accompagner cette acquisition évolutive remarquable qu'est l'homéothermie, le fait de la capacité de réguler sa température corporelle pour conserver un milieu interne qui soit stable. C'est donc une invariance thermique que favorise la plume et le poil, et donc ça va favoriser un meilleur fonctionnement métabolique. Avec cette température constante, les muscles vont développer un meilleur rendement, le cerveau va être un peu plus, va avoir une meilleure acuité et la chimie du corps va connaître une meilleure efficacité. Donc les fanères, poils ou plumes, vont consacrer en quelque sorte l'indépendance de l'organisme face à l'environnement. En cela, on peut effectivement penser que ce sont des adaptations remarquables. Évidemment, l'ennui, c'est que plumes et poils ont aussi des admirateurs particulièrement chanceux, c'est la tribu des puces, des tiques et autres choses, et qui savent très bien exploiter cette couverture pour se nicher à l'intérieur de notre corps. Et évidemment, la différence entre la présence de ces petites espèces est vite, vite intolérable. D'ailleurs, savez-vous qu'il existe chez l'homme des poux et des poux de corps, les fameux morpions, et des poux de tête. Or, ça n'existe que chez l'humain. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes nus sur le reste du corps. Chez les singes, eux, il n'y a qu'une seule espèce de poux, parce que tout simplement, ils peuvent utiliser toute la fourrure pour eux. Voilà, vous voyez des adaptations bien rigolotes, enfin, si l'on peut dire.